France Inter.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans un monde nouveau. L'émission qui intercepte les signaux du changement dans nos sociétés. Aujourd'hui, c'est au futur des assiettes qu'on s'intéresse, tandis qu'un nouveau scandale sanitaire se dessine avec le cadmium, un métal lourd présent dans l'alimentation du quotidien et que les menus anti-crise font eux aussi un carton. Ça fait partie des signaux, défis sanitaires, défis économiques, mais aussi climatiques, évidemment. Derrière chaque bouchée, il y a des choix de société à trancher, des inégalités à régler, des habitudes qui disparaissent, d'autres qui émergent. Alors, à quoi ressembleront nos assiettes en 2050 ?
Hydratation 4, s'il vous plaît.
C'est prêt ?
Et voilà!
Et un chef, maman. Personne n'hydrate une pizza comme toi.
La pizza qui grossit au micro-ondes. C'était un vrai plat d'anticipation dans Retour vers le futur en 1989. Aujourd'hui, c'est déjà de la préhistoire. On parle de fermentation de synthèse pour remplacer le lait de vache. Alors, pour cet exercice de prospective alimentaire, vous restez avec nous et on s'intéressera à une tendance qui, elle, vient de loin. Vous l'avez peut-être vu cette semaine, le réseau social TikTok a retiré le mot-clé Skinny Talk qui rassemblait des vidéos qui faisaient la promotion de la maigreur.
J'ai perdu 10 kilos en presque un mois et demi et la seule solution, c'est arrêter de manger.
Voilà, le mot-clé Skinny Talk qui mettait littéralement en danger de mort a disparu après une mobilisation intense, mais pas les contenus qui, eux, trouveront toujours un espace d'expression, surtout qu'ils s'ancrent dans une culture ancestrale, celle de la privation et du contrôle de l'alimentation chez les femmes. La journaliste et essayiste Lorraine Malka livre un essai passionnant sur le sujet et sera notre invitée en deuxième partie d'émission. En 2050, les femmes pourront-elles enfin se sentir libres de manger ? Et ce sera quoi manger ? Voilà, bienvenue dans le menu d'un monde nouveau.
France Inter. Un monde nouveau. Mathilde Serrel.
Et pour commencer par parler de cet avenir de l'alimentation, j'ai le plaisir d'accueillir autour de la tablée de France Inter, Gilles Fumet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de géographie culturelle, co-auteur d'une histoire de l'alimentation au PUF avec Jean-Pierre Villiot et vous avez publié récemment Le Petit Déjeuner. Un repas inutile. Aux éditions d'en bas, votre voisin de table s'appelle Mohamed Cheikh. Bonsoir.
Bonsoir.
On vous a connu en grand vainqueur de Top Chef en 2021. Depuis, vous avez monté votre propre bistrot, Meida, à Saint-Ouen. Et vous avez ouvert récemment votre enseigne de fast-food, Chicken Chill, spécialisée dans le poulet frit. Une question à tous les deux d'abord. On se projette donc en 2050, ce soir, dans pile 25 ans. À quoi ressemble un repas type, Mohamed Cheikh ?
C'est une question
vaste
et difficile. J'aimerais qu'on puisse au moins avoir une grande partie de ce qu'on a aujourd'hui. Mais je pense que la restauration rapide, alors ça ne veut pas dire street food ou fast food, va se développer, puisque j'en parlais encore ce midi. Les gens prennent de moins en moins de temps et de moins en moins de plaisir pour manger.
C'est la pression économique sur le travail, par exemple, qui va faire qu'on va moins s'attabler.
Je pense que c'est une question déjà de temps, puisqu'on en perd beaucoup, contrairement à avant, lié à beaucoup de choses aujourd'hui qui ne sont pas indispensables, telles que les réseaux sociaux.
Trop de scrolling sur les réseaux, trop de défilements à la chaîne et pas assez de temps pour faire chauffer les pâtes.
Il y a ça, et puis après, tout devient compliqué aujourd'hui, les budgets ne sont plus les mêmes, bien manger augmente, etc. Quoi.
Il y a une étude qui vient d'être publiée à la demande de la marque de livraison d'aliments non préparés à domicile Hello Fresh, et je vais vous donner ses conclusions, mais d'abord je voudrais vos perspectives à vous Gilles Fumet, vous la voyez comment l'assiette en 2050 ?
Alors en fait d'abord je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'assiettes.
Il y aura des mains.
Il y a des mains, il y a des bowls, il y a du carton, du plastique, du polystyrène. Enfin, ce que je vois, moi, déjà, sur la place du Panthéon, quand mes étudiants prennent leur repas le jour où il fait beau, ils sont dans des... En fait, ils mangent dans des contenants qui ne sont pas les assiettes. Donc, ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, on a appelé le repas type, en fait, ça n'existe pas, le repas type, il y en a... sauf si on parle du repas gastronomique des Français, bon, là, on est dans quelque chose, mais ce qu'on va manger ce soir, soir, demain, dans les trains, à droite, à gauche, c'est un repas. Mais vous voyez, c'est plus quelque chose comme on le faisait dans une économie rurale où les gens étaient confinés par le temps solaire, le matin, le soir, les animaux, la ferme, et puis surtout les disponibilités qui n'étaient pas les mêmes.
Donc la question même du repas titre, de toute façon, n'existe pas. Voilà. Alors je vous donne quand même quelques conclusions de cette étude HelloFresh. La valorisation des légumes moches et des déchets alimentaires, c'est déjà ce que vous faites dans votre cuisine, vous, votre restaurant, Mohamed Cheikh.
Bien sûr, alors déjà ce qui est super important, c'est de respecter la saison, pour pouvoir déjà avoir les légumes tels qu'ils sont. Et après, voilà, c'est vrai qu'on voit, je disais en fait, la plus grande complication qu'on a aujourd'hui, nous concrètement, les légumes, qu'ils soient tout droits, rectangulaires, ça ne nous intéresse pas.
De toute façon, ils vont finir découpés, donc...
Exactement, quand on veut faire une belle mousseline de carottes, par exemple, ce qu'on veut, c'est qu'elle soit des sables, par exemple. Mais qu'elle soit un double ou un triple, on s'en fiche. Sauf qu'aujourd'hui, les producteurs sont obligés de jeter une grande partie puisqu'ils savent produire, mais pas distribuer. Et que la distribution, quelle qu'elle soit, n'est pas intéressée par ces produits-là.
Donc vous, cet objectif, en tout cas, de l'alimentation avec des fruits et légumes moches, c'est déjà quelque chose que vous pratiquez. C'est pour vous, c'est un horizon 2050 avéré.
Ben, il faut qu'on commence dès maintenant. Je veux dire, c'est déjà nous ce qu'on fait depuis longtemps, puisque le cuisinier, c'est quand même l'art de sublimer le produit, alors quel qu'il soit, parce qu'il y a même des produits de luxe qui ne sont pas très beaux. Si je parle des oromos, par exemple, ou d'autres produits.
Est-ce que le foie gras, c'est beau ?
Ben non, le foie tout court. Donc non, il faut valoriser, et puis il faut valoriser l'entièreté aussi du produit. C'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire.
Et l'intelligence artificielle pourrait nous y aider, c'est ce que suggère en tout cas cette étude d'HelloFresh, donc pour mieux finalement analyser, j'imagine, les stocks, proposer des objectifs de découpage optimisés. Vous y croyez à ça ?
Non, parce que c'est propre à chacun et de son appétit, finalement.
Ça peut se normaliser en cuisine ou pas ? Puisqu'on est sur des réflexions autour de ça en ce moment.
Oh bah j'aurais bien aimé, tiens, avec les galères de personnel qu'on a... avoir quelques remplacements par des intelligences artificielles, mais non, c'est pas...
Mais ils ne savent pas faire de mandoline.
Non, il faut une sensibilité culinaire.
Autre tendance, les nouvelles super graines, le teff et le fonio, qui remplaceront le quinoa et le boulgour, le retour aux plantes ancestrales et locales pour diversifier l'alimentation, et l'arrivée massive du cactus en confiture, grillé ou en tacos. En tant qu'historien de l'alimentation, Gilles Fumé, si je dézoome un peu, ces gadgets, c'est des adaptations finalement qu'on a connues depuis la nuit des temps, ces évolutions dans les régimes alimentaires.
Tout à fait. C'est le thé, le café, le chocolat que vous avez pris ce matin, c'était quelque chose. Ce sont des choses qui sont arrivées au XVIe siècle.
Le sucre aussi, très tardif.
La tomate, etc. Donc il y a énormément de produits. Par définition, nos alimentations s'enrichissent constamment. Nous avons connu dans nos générations le kiwi, par exemple. Hein, kiwi qui était complètement inexistant en France, qui est là depuis une vingtaine d'années. Donc par définition, nous cherchons constamment à la fois à nous adapter et puis surtout à nous renouveler et à faire en sorte que chaque génération parvienne à construire l'alimentation qui lui ressemble. En fond, c'est ça. C'est, au fond, nous cherchons tous à trouver une alimentation qui est bien sûr puisée chez celle de nos parents, tout ça, mais aussi celle qui va faire du bien à la planète, qui va faire du bien à notre santé, et donc qui impacte le futur. Et c'est la raison pour laquelle nous innovons, parce que quand nous venons d'apprendre que nous devons que le cadmium empoisonne nos enfants, nous allons arrêter les céréales.
Ouais. Le cadmium, voilà, ce métal lourd qui est présent dans les céréales, dans le pain, dans les patates, etc., qui vient du glyphosate. C'est le dernier scandale sanitaire qui a été révélé par Le Monde vendredi, hier. Donc ça, tout d'un coup, qu'est-ce que ça représente aussi par rapport aux défis alimentaires de demain, des bombes sanitaires aussi qu'on a sous-estimées ?
Alors oui, et en fait on a tellement privilégié l'innovation par la biologie et la chimie,
ouais,
qu'on a parfois pris en otage les populations sur leur santé. Je pense par exemple à un biologiste à qui j'ai demandé, mais les steaks végétaux et tous ces produits est-ce que qui sont apparemment bons pour la santé aujourd'hui, dans la mesure où ça permet de se passer de la viande, etc. Est-ce que nous avons une épidémiologie qui nous permet de dire que, exactement comme nous l'avons fait avec la chimie, où on a pensé que tout était bien et que tout d'un coup on se rend compte que ça fait mal, eh bien, il m'a dit, mais ce qu'on invente aujourd'hui, on le saura dans 20 ans.
Et voilà. Au fond, il y a deux scénarios. Il y a un scénario qui va être techno-prospectiviste, on va c'est dire, ça, avec des solutions. Ouais. On resterait à peu près dans les mêmes menus, mais avec des solutions pour maintenir en fait, ce type d'alimentation. Et puis des scénarios qu'on appelle frugaux, avec peut-être plus de végétalisation, etc. Ouais, comment vous situez les choses? On peut-être situer entre les deux, non, Mohamed Cheikh, pour pouvoir tenir le coup en 2050?
Moi, je suis un peu pessimiste. Ah. Je me demande, je dis souvent, s'il y en a un qui a la réponse, il faut qu'il sonne à ma porte. Je pense pas qu'on puisse changer grand-chose et je ne pense pas que ça va s'améliorer puisque c'est lié à plein de choses. Donc des abus depuis plusieurs années, des situations météorologiques qui changent, des consommations
plus
qui...
Plus 3 degrés d'ici 2050, voilà, c'est une révolution pour l'agriculture.
Des saisons qui ne veulent plus rien dire, enfin, il n'y a plus rien qui fonctionne dans le bon sens. Les consommateurs aussi ont un double discours, puisqu'ils vous disent « Ah ben non, mais moi je veux ça », mais en même temps, ils ne sont pas prêts à le payer. Sans parler de qui que ce soit, on vous prône une alimentation végétale, mais en même temps, on se met dans le corps des sodas qui sont très mauvais pour notre santé, et on est très content de les boire quand ils sont bien frais. Donc, il y a un peu tout ça qui se mélange et moi j'ai un peu du mal à comprendre parfois parce que voilà, je prends l'exemple de mon restaurant rapide autour du poulet où on s'est pris la tête à prendre du pain sans OGM, sans huile de palme, fait en France, pareil pour le poulet, que ce soit nature d'éleveur, etc. Finalement, les clients, ce qu'ils vous disent à la fin, c'est que c'est plus cher que le Quick et le McDonald's. Il y a un moment donné, tu te dis, attendez, mais est-ce que vous êtes cohérent dans votre
vous
propos?
Vous aviez fait le pari qu'en fait, ça serait peut-être du snacking, mais de qualité, que ça pouvait séduire les clients.
Mais quand on me pose la question en tant que chef, quelle est la différence contrairement aux autres? La première, c'est la sélection des produits. Déjà, pour moi, c'est quand même très important. Donc, évidemment, on est obligé de le répercuter. On a des tarifs qui sont très accessibles. Hein. Mais je suis sûr que dans une boîte noire, discrètement, on demande à 100% des Français, est-ce que tu préfères payer un menu 6 euros avec un poulet qui vient de Roumanie, qui n'a jamais vu le jour, ou est-ce que tu préfères payer un menu 12 avec un super produit qui a une traçabilité en France, etc. La vérité...
On a eu les chiffres en mars, hein, dans la dernière étude. Majoritairement, c'est vraiment le prix, le grand déterminant, je crois, à hauteur de 69%. Gilles Fumé, vous voulez réagir?
Oui, en fait, moi, je suis d'accord, hein, avec tout ce qui vient d'être dit. Sauf que, quand on parle d'alimentation du futur, ayons en tête cette idée, et moi, je le dis parce que je travaille avec des étudiants, donc des jeunes qui ont le futur dans leur tête, dans leur corps, mais qui ne l'ont pas encore développé. Et pour lesquels les problèmes que vous soulevez, ce sont des problèmes qui vont régler, comme vous avez réglé vos problèmes à votre époque et comme nos ancêtres ont réglé leurs problèmes. Vous voyez, je pense que chaque génération cherche la nourriture qui lui ressemble vraiment, je crois beaucoup à ça, et pour laquelle, bien sûr, le prix est évidemment un déterminant important.
La discussion continue, bien sûr, puisqu'on a quand même un défi à régler en moins d'une heure. Comment garantir une alimentation saine pour tous d'ici 2050 face aux défis climatiques, économique et sanitaire, et comment définir la nouvelle sécurité alimentaire. On en reparle avec vous deux juste après la Vanessa Paradis nouvelle sur France Inter.
Juste retour des choses comme une overdose, baisse le bouquet final, baisse le bouquet final. J'avoue, je les ai attendus longtemps, mais les fleurs ne parlent qu'au présent. Les regrets n'aiment pas, tu peux leur faire dire tout ce que tu veux. Sur la carte glissée, l'encre bleue me dit que tu n'aimes que moi. Le rouge et rouge sang, couleur des amants, mais c'est le bouquet final. Serré, tout y est, mais plus le cœur. T'aimerais changer. fais pas les choses à moitié. Sans vouloir jeter des flammes, y'a comme une envie de te pardonner, de me faire pour toi belle à crever. Tout y est mais plus le cœur.
Sorti hier, Bouquet Final. Et ce n'est que le début du grand retour de Vanessa Paradis qui sortira un nouvel album en octobre. Le retour des beaux jours, promesse d'un automne ensoleillé.
Un monde nouveau, Mathilde Serrel sur France Inter.
C'est copieux, c'est bien, et puis il y a la qualité et la quantité.
À la maison, ça nous reviendrait plus cher que ça. Hein.
Des clients qui font parfois une centaine de kilomètres pour venir manger ce menu. Le mercredi, le restaurant sert une soixantaine de couverts, c'est deux fois plus que le reste de la semaine.
Là, on est en début de mois, encore hier, les gens me disaient, bah voilà, j'ai mon argent qui est tombé, j'ai plus d'argent pour finir le mois. Quoi. Et c'est tous les jours, je veux dire, je l'avance jamais en temps rien. Donc ça, plus ça, plus ça, plus ça, on s'est dit, comment nous, à notre niveau, à notre petit niveau, comment on peut intervenir là-dessus pour essayer de quand même donner un plaisir aux gens.
Reportage du Monde TV, c'était au mois de février cette année dans un resto où les menus anti-crise à 8 euros tous les mercredis cartonnent. Ça devait être éphémère, finalement ça s'est prolongé. On s'interroge sur le futur de nos assiettes dans un monde nouveau aujourd'hui, toujours avec le géographe Gilles Fumé et le top chef Mohamed Cheikh. Cette semaine, Mohamed Cheikh, vous faisiez la une du journal Libération avec ce thème justement en gros titre, l'essor des menus anti-crise. C'est quoi les leviers finalement pour nourrir sainement et moins cher ?
Utiliser les produits qui sont boudés. Ça fait longtemps qu'on le dit, mais il faut le faire vraiment.
Au-delà des légumes moches dont on a parlé.
Exactement. Le maquereau, l'ombrine, la sardine, la rascasse, le salsifis, le cerfeuil tubéreux. La liste est longue, hein. J'ai pas tout en tête tout de suite.
C'est-à-dire qu'on garde des produits de grande qualité, mais qui sont moins chers à la base.
Oui, puisque personne n'en veut. Au lieu d'acheter du saumon qui est produit en grande intensité, avec tout et n'importe quoi. D'ailleurs, je ne sais même pas comment ils arrivent à fournir le monde entier, puisque c'est quand même un des poissons le plus consommé au monde. Les gens ne se posent pas de questions. Quoi.
Et donc, en fonction finalement de la demande de tel ou tel produit, toujours se positionner sur celui qui est moins demandé et qui donc est moins cher. Faire ce travail-là plutôt que de rester dans des menus fixes. Finalement, c'est l'agilité.
Absolument. Bah, moi, quand j'appelle par exemple mon poissonnier, je lui demande, ok, qu'est-ce que t'as à moins de 20 balles le kilo qui vit dans la mer, hein, quand même, c'est un peu ça. C'est con, mais aujourd'hui, on ne sait plus vraiment d'où ça vient.
Ouais.
Donc, voilà, c'est comme ça qu'on travaille. Il me dit, bon, alors je vais avoir ça, par contre, ça va durer deux semaines, bon, bah, pas de problème. Et nous, on échange après la carte et le menu en fonction.
Et pour vous, Gilles Fumé, je sais qu'il y a des a priori finalement à démonter. D'une certaine manière, Mohamed Cheikh le fait en parlant de ces menus hyper gastronomiques qui se faisaient avec des produits certes luxueux, mais en fait de mauvaise qualité, on va dire, environnementale. Et vous dites aussi qu'on parle de la pression du prix et de la mauvaise alimentation des gens qui ont un petit budget. Vous dites que les gens riches mangent aussi très mal.
Oui, la qualification de l'alimentation, elle dépend de la culture, mais aussi du prix que l'on met à bien manger. Hein, effectivement, vous avez des gens aisés qui mangent vraiment très très mal, et vous avez des gens pauvres qui arrivent à trouver des produits sur le marché à des prix en fin de marché à des prix tout à fait intéressants. Donc, je crois que c'est quelque chose, c'est très culturel le goût pour pour la bonne cuisine. Voilà, tout le monde ne peut pas l'avoir. Et c'est vrai que l'industrie, elle s'est engouffrée dans cette paresse, au fond, qu'on a beaucoup, enfin, pas ceux qui aiment la cuisine, mais que les gens ont beaucoup. Parce qu'il faut choisir tout le temps. Voilà. Ce qui fatigue le mangeur, c'est qu'il doit choisir. Et c'est la raison pour laquelle l'industrie, elle s'avance là-dedans avec des injonctions. Et moi, j'avais travaillé sur le petit déjeuner justement pour montrer que le matin, quand vous vous levez...
C'est quand même Kellogg's qui a inventé le projet céréal au petit déj.
C'est exactement ça. Voilà. Et qui nous fait croire que c'est le repas le plus important de la journée. C'est quand même une arnaque absolument incroyable, mais qui montre en quelque sorte qu'elle a fonctionné parce que le matin, effectivement, c'est un moment au cours duquel nous n'avons pas beaucoup de temps et il nous faut des produits disponibles très rapidement, voilà, sans grande pensée, et en sachant simplement que on a besoin d'énergie, alors que la question énergétique est complètement évidemment discutable, et on avale ça surtout si
parce qu'on avait besoin qu'on nous dise quoi faire.
Parce que, en fait, on est conditionné. Non, je pense qu'on n'a pas forcément des besoins, parce que le petit déjeuner, c'est carrément industriel. Hein, je vois. C'est carrément l'exemple d'un repas qui est inutile. Tous les biologistes vous disent que le matin, alors que votre corps sécrète du cortisol, pendant les 3 heures qui suivent votre lever,
vous n'avez... C'est l'hormone du stress, donc qui dynamise.
C'est l'hormone du stress, on n'a pas besoin de manger. Après, on a besoin.
Vous le dites dans votre livre, dans l'histoire de l'alimentation, Gilles Fumet, vous dites « Jamais dans l'histoire humaine, les choix alimentaires n'ont été autant exposés questionner et surveiller.
Voilà. Moi, par exemple, qu'est-ce que ce soir je vais manger parce que je ne sais plus, j'ai entendu le cadmium, etc. Je tombe sur votre restaurant et puis je vous fais confiance parce que vous êtes référencé, vous avez eu des étoiles, vous avez ceci,
cela. Il y a un projet.
Vous êtes là depuis longtemps et donc c'est comme ça que j'ai fait confiance. Mais on fait toujours des compromis.
Il y a une des choses auxquelles vous croyez beaucoup, c'est le retour, pas forcément uniquement dans votre restaurant, si on envoie toute la France et le futur de l'humanité au restaurant de Mohamed Chef. Bon, on aura peut-être un problème de place.
On a de la place,
L'idée, vous dites, c'est la révolution de la cuisine à la maison. En fait, de comprendre que faire soi-même, alors qu'il y ait une cuisine ou pas, on en reparlera, parce qu'il semblerait que la cuisine en elle-même, le foyer historique disparaisse, mais faire soi-même, parce que quand on achète un sandwich triangle dans un supermarché avec un soda, par exemple, au fond, on a le budget pour la semaine. Expliquez-nous comment.
Alors, budget pour la semaine, c'est pas tout à fait ça. C'est surtout que ce que j'explique, moi, c'est que si on achète un bon pain, un bon jambon, quel qu'il soit, et on fait sa mayonnaise maison, bah, au lieu d'acheter un seul sandwich triangle, finalement, on peut s'en faire quelques-uns. Ouais. Et potentiellement le faire sur toute la semaine.
Sur 5 jours.
Voilà. Mais je suis assez d'accord avec ce que vous dites sur le bien manger, c'est assez culturel. Je trouve que c'est une très belle phrase. Parce qu'il y a des gens, dans certains pays, moi j'ai la chance d'avoir une double origine, parce que je suis français d'origine algérienne. Et j'ai remarqué en fait, en voyageant, et notamment en Algérie, qu'ils savent faire à manger avec pratiquement rien, sans avoir une tonne de viande, etc. Et ça, c'est vachement intéressant, et c'est ce qu'on n'a peut-être pas le temps de faire aujourd'hui en France aussi.
Mais donc, vous ramenez les gens à la cuisine, pour vous, ça passerait déjà par des cours de cuisine à l'école. Je crois que c'est un des leviers auxquels vous croyez vraiment. C'est qu'il faut, qu'on apprenne aux petits-enfants à le faire dès le départ. D'ailleurs, dans l'histoire de l'alimentation, on voit, il y a eu des cours d'hygiène qui ont commencé à arriver au moment de la Troisième République, donc la grande arrivée de l'éducation nationale. Et ça, c'est le truc qui nous manque, en fait, pour régler ce défi alimentaire.
C'est hyper important. Moi, je ne comprends pas depuis des années qu'en science, on parle pas de tous les sujets qu'on est en train d'aborder depuis tout à l'heure. J'ai 2 enfants en bas âge, un de 2 ans et un de 3 ans, et en fait je me rends compte que les moments en cuisine, déjà c'est du bonheur mutuel, mais en plus ils s'intéressent à ce qu'ils mangent, et surtout ils cherchent à goûter. Alors, on l'a déjà entendu, hein. Il y a eu des émissions qui ont été faites avec Cyril Lignac, Norbert et d'autres encore, mais c'est vrai que c'est concret. Je pense qu'ils pourraient même essayer, alors après forcément il y a des règles d'hygiène, de sécurité, mais de faire une petite session cuisine dans les collectivités avec des enfants quand ils peuvent le faire, c'est quelque chose de merveilleux et qui intrigue. Quelle est la différence entre une courgette et un concombre? C'est pas parce que c'est vert que je vais pas forcément l'apprécier. Mais il y a des gens, moi, des fois, qui me disent « j'aime pas, par exemple, les choux de Bruxelles », des adultes, hein. C'est pas vrai. Ça va dépendre de comment tu l'as cuisiné. Moi, il y a plein de choses, finalement, que j'aime pas de certaines manières, mais que j'adore dans d'autres.
Oui, bien sûr.
Et en fait, tout est question de transformation aussi.
Autre levier très important, Gilles Fumet, vous en parlez aussi dans l'histoire de l'alimentation, et vous y croyez aussi, Mohamed Cheikh, c'est donc la lutte contre le gaspillage. On l'a dit, comment est-ce qu'on règle ? Il y a des chiffres alarmants dans votre livre, je vais les reprendre, Gilles Fumet. On se rend compte qu'on a donc plus de 9 millions de personnes qui meurent de malnutrition, dont le tiers a moins de 5 ans. Ça, c'est les chiffres en 2020. 2 milliards qui souffrent de carences en micronutriments, notamment en Afrique, où une personne sur 4 est sous-alimentée. Et dans le même temps, on a 2 milliards de personnes qui souffrent de pathologies liées au surpoids, conséquence notamment de l'abondance, avec, on a des chiffres, voilà, on a 30% de gaspillage à peu près sur l'alimentation, ça, après ça varie en fonction des postes, c'est 45% pour les fruits et légumes, ça paraît fou. Ça c'est le grand dérèglement au fond, cette question du gaspillage.
Alors, c'est des règlements dans le sens où l'industrialisation de l'alimentation a fait que les chaînes d'approvisionnement et de conservation connaissent des bugs et des il y a des complications qui sont inhérentes à la masse.
Mais je crois que ça date de quand finalement, le 19e?
Oui, 19e, mais même oui et non. Il y a eu des périodes de disette. Après, effectivement, quand on a industrialisé et qu'on a produit en masse, distribué en masse, là forcément on a beaucoup plus gaspillé. Mais d'une manière générale, si on prend à l'échelle mondiale le gaspillage, il existe autant en Afrique, là où on mange difficilement, qu'en Asie, parce qu'il y a des problèmes de soudure, il y a des problèmes de conservation qui sont compliqués.
Mais au fond, comment est-ce qu'on fait face à cette espèce de disproportion énorme entre une souffrance de surabondance, on va dire, et un déficit, une carence mortelle?
Alors, il y a des associations, il y a la solidarité, il y a l'attention aux autres. Enfin, je veux dire, il y a quand même des. L'opinion publique a poussé les politiques à faire des lois qui interdisent de détruire la nourriture. Hein. Vous vous rappelez, il y a quelques années, les boulangers, devant leur boutique, le matin, lorsqu'ils vidaient ce qu'ils avaient fait la veille, ils mettaient de l'eau de javel sur le pain pour éviter que les gens viennent le chercher. Donc, tout ça, ça a été quand même réglé. Donc,
il y a un levier politique, mais comment est-ce qu'on fait dans le rapport finalement à la nourriture? Parce que c'est ça, c'est le nom de quoi cette surabondance, Mohamed Cheikh?
Je pense que la profusion aussi, elle nous est un petit peu trop accessible. J'ai fait un échange un jour qui m'a valu pas mal de critiques que je vais réitérer parce que c'est comme ça que je le pense.
Parce que vous n'avez pas peur que ça recommence?
Non, voilà, parce que je suis plutôt quelqu'un qui dit ce qu'il pense et jusqu'à présent ça m'a toujours réussi. Moi, ce qui m'a toujours leurré, c'est de voir dans les supermarchés le nombre de produits identiques avec des marques différentes. On va au rayon yaourt nature, il y a au moins, il y a au moins 15 références différentes. On va au rayon blanc de poulet, il y a au moins l'équivalent. On va au rayon beurre doux, il y a au moins l'équivalent. Est-ce qu'on a besoin de tout ça?
Vous dira que la concurrence va permettre de faire baisser le prix, etc. Sauf qu'en fait, on se rend compte
c'est faux. Et puis, je vais vous dire un truc, c'est souvent, pour ceux qui ne le savent pas, les mêmes produits dans des emballages différents.
Donc finalement, avant d'aller au scénario techno-futuriste, voire qui pourrait finir au pire en soleil vert, vous vous souvenez de ce film dystopique de 1973 où les humains finissent par mourir et être transformés sous forme de tablettes pour nourrir les autres humains. Pour ne pas arriver à ce point-là, au fond, on a avant de sortir plein de technologies différentes, au fond, on a déjà des leviers. On le voit dans ce que vous dites, limiter le référencement, travailler sur des produits qui sont peu demandés.
Les applications aussi qui permettent de récupérer de la nourriture qui va être jetée pour les étudiants qui le soir
too good to go.
Comme
on dit en bon français.
Exactement.
L'historien de l'alimentation Gilles Fumet reste avec nous, le top chef Mohamed Cheikh aussi. Et puis cette question que j'ai envie de poser tout de suite à Lorraine Malka que je vous présente, qui est l'essayiste qui va nous rejoindre dans cette deuxième partie d'émission. Qu'est-ce qui se passe si, face à ces défis alimentaires qu'on a définis sanitaires, climatiques, économiques, qu'est-ce qui se passe si en plus les femmes se mettent à manger autant que les hommes? C'est pas la catastrophe, Lorraine Malka, parce que c'est un peu votre sujet.
Si elles se mettent à manger autant que les hommes et à cuisiner autant que les hommes, c'est aussi, et à produire autant que les hommes, à s'emparer de ce domaine qui est quand même auquel elles ont été assignées depuis des siècles.
Qu'est-ce qui se passera alors?
Alors je pense qu'il y a une révolution en cours là.
On va creuser cette histoire de place des femmes dans les assiettes en 2050, mais pas à l'intérieur. Hein. Ce sera avec vous Lorraine Malka juste après l'affranchie Chapel Rhone sur France Inter. Que la reine de la pop queer pour célébrer ce mois des fiertés dans Naked in Manhattan, extrait de son album multi-récompensé et désormais culte The Rise and Fall of a Midwest Princess. Elle raconte son crush sur une fille de New York. Elle interprétera son album pour une unique date en France, déjà très demandée. Ce sera le 20 août à Rock en Seine.
France Inter. Mathilde Serrel. Un monde nouveau.
Meuf, si t'es en déficit calorique et que ton estomac gargouille, dis-toi déjà qu'il t'applaudit pour tous les efforts que tu fais et que c'est le signe que tu es en train de mincir.
Arrête de te récompenser avec de la bouffe, tu n'es pas un chien.
Bienvenue sur le vrai Skinny Talk français.
Cette semaine, TikTok a donc décidé de supprimer le mot-clé Skinny Talk où se côtoyait ce genre de vidéos sur des régimes extrêmes, glorification de l'anorexie. Est-ce que ces décisions changent vraiment quelque chose ou est-ce que les troubles du comportement alimentaire sont trop profonds, trop diffus pour être réglés par une simple modération de l'algorithme ou une simple page d'accueil qui a changé? Désormais, quand on recherche Skinny Talk, on tombe sur une page sur les différentes plateformes qui vous dit tu n'es pas seule et qui vous envoie vers des conseils alimentaires. Lorraine Malka, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, autrice. On vous reçoit pour ce livre « Mangeuse, histoire de celle qui dévore, savoure ou se prive à l'excès ». C'est publié chez Point. Vous parliez d'autres tendances à la fin du livre, justement, qui étaient déjà en place. Donc finalement, que ce soit Skinny Talk ou une autre, c'est l'injonction, en fait, qui elle est ancestrale sur les femmes.
L'injonction, effectivement, qui est extrêmement présente, comme on a entendu dans les sons que vous avez diffusés. Les sons que qu'on a entendus, là, ce sont des mantras qui reviennent, en fait, dans toutes les vidéos de ce qu'on appelle le skinny talk, qui est un ensemble de vidéos où les femmes donnent des astuces, des conseils pour se priver, pour maigrir, avec, enfin, ça repose toujours sur la privation, sur la culpabilisation et sur la haine de soi. Et effectivement, c'est un mouvement qui existait déjà sous une autre forme, qui, à mon sens, était quand même moins... Enfin, qui était déjà tragique, mais peut-être un peu moins pire.
Là, c'était un peu le hashtag qui vous mettait en danger de mort, quoi. Le mot-clé qui vous envoyait vers les pires des conseils.
Le hashtag skinny talk. Il y a 20 ans, on appelait ça donc les sites pro-Anna, qui ont commencé à se développer sur des forums d'abord. Donc là où je dis que c'était un peu moins tragique, c'est qu'il y avait de l'entraide en fait. C'était très ambivalent. Il y avait un mélange d'injonctions, de conseils, d'astuces pour devenir anorexique ou pour le rester. Donc pro-Anna, c'est pro-anorexie. Et aujourd'hui, ce qui se passe avec skinny talk, c'est vraiment purement des conseils. Verticaux qui n'impliquent pas du tout d'entraide et de communauté et qui ne permettent pas aux femmes de s'entraider.
Une sorte de compétition narcissique dans la maigreur.
Voilà, avec des défis pour montrer à quel point on a réussi à maigrir avec ces phrases-là. Si ton ventre gargouille, c'est qu'il t'applaudit.
C'est qu'il t'applaudit.
Rien n'a aussi bon goût que la maigreur.
Ça, c'est Kate Moss dans le texte.
C'est attribué à Kate Moss, effectivement. Eat small to be small, mange peu pour rester mince. Voilà, donc ce sont des phrases qui sont répétées à longueur de temps et c'est des centaines de milliers de vidéos qui marchent très très bien. Donc pour des très jeunes femmes en plus.
Et quand je dis que c'est une tendance qui vient de loin, pour le coup, c'est parce que vous écrivez notamment dans ce livre cette phrase très forte, une femme qui mange devient suspecte. Comment est-ce qu'on est arrivé à ce moment où un acte aussi vital que le fait de se nourrir... Elle, à l'endroit des femmes, parce que bon, les chiffres, c'est vrai, majoritairement, même s'il y a des hommes qui souffrent de ces troubles alimentaires compulsifs, c'est quand même majoritairement sur l'anorexie et l'anorexie mentale des femmes. Enfin, ça dépasse les 80%, donc bon, on peut le dire. Qu'est-ce qui fait que cet apport vital nécessaire, il s'est transformé en truc suspect ? C'est là aussi qu'il faut remonter.
Il s'est transformé ou il est resté un truc suspect. En fait, c'est une sorte de... C'est ce qu'on appelle une constance anthropologique. Ça n'a pas bougé depuis l'Antiquité. La femme qui mange est dangereuse. Et c'est vraiment ça que j'ai raconté dans mon enquête, qui comporte effectivement un pan historique et qui comporte aussi une dimension sociétale, puisque j'ai interrogé des femmes, des jeunes femmes, des femmes de différents âges et de différents milieux sociaux pour savoir quel était leur rapport à la nourriture. Et je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement cette culpabilité, cette anxiété alimentaire très fréquente.
Ce mot, vous en parlez, il est intéressant parce qu'il est un petit peu plus large que la question de l'anorexie mentale et qui permet bien de rendre compte de ces enjeux-là. L'anxiété alimentaire. On parlait de sécurité alimentaire, tout d'un coup, en face, il y a l'anxiété alimentaire.
Oui, il y a des chiffres qui sont sortis qui disent que 44% des femmes souffriraient de cette anxiété alimentaire, qui est donc effectivement un spectre plus large que ce qu'on appelle les TCA, les troubles des conduites alimentaires. Et moi, je pense que... Alors, je crois que quand on passe sur la classe d'âge 16-20 ans, ça touche carrément plus de 65% des femmes. Moi, je pense que les chiffres sont très sous-estimés. En tout cas, dans mon enquête à moi, où j'ai vraiment lancé une enquête avec beaucoup, beaucoup de femmes qui ont répondu, en ne demandant pas du tout uniquement à des femmes anxieuses alimentairement de me répondre. Et c'est 100% des femmes qui sont concernées ou ont été concernées à un moment ou à un autre de leur vie par cette anxiété, le fait d'avoir constamment en tête comment je vais manger aujourd'hui, comment je vais compenser ce que je vais manger aujourd'hui, quel repas je vais sauter, etc.
Alors, j'aime beaucoup aussi ce livre parce que vous parlez de vous, vous enquêtez aussi sur vous-même, avec page 14, ce texte que j'ai envie de citer, qui est extrêmement drôle. « Toi qui te crois plus maligne que ta mère et ta grand-mère, en ne te laissant pas dévorer par la préparation quotidienne des repas, toi qui affirmes fièrement avoir choisi de vivre le couple séparément, comme un éternel début, précisément pour échapper à tout cela. Toi qui écarquilles les yeux lorsqu'on dit que les femmes ont le pouvoir de tenir leur homme par le ventre et le bas-ventre. Oui, l'expression circule dans ta famille depuis longtemps. Pourquoi toi qui as voulu te démarquer des traditions juives dans lesquelles tu as grandi, pourquoi te retrouves-tu ce soir, comme tous les vendredis soirs, fourré dans ta cuisine et excité comme une puce à l'idée de préparer à ton homme une version érotique des cantiques du dîner de Shabbat ?»
Qui tombe en plus à plat à chaque fois parce qu'il a pas autant d'appétit que je voudrais. Donc
Alors, est-ce que vous avez réussi à répondre à... Le livre, c'est pour tenter de répondre à ça.
C'est ça. C'est vraiment. Vous avez cité l'introduction du livre et c'est vraiment un paradoxe que j'essaye de comprendre. C'est-à-dire que je suis dans une prise de conscience féministe importante et pourtant, je n'arrive pas du tout à me défaire de cette idée transmise par ma mère et par ma grand-mère. On tient un homme par le ventre et aussi, il faut ne pas manger, c'est-à-dire rester appétissante sans manger. Donc, il y a vraiment tous ces paradoxes-là, ces injonctions, cette passion à la fois pour la nourriture et pour les régimes alimentaires, où j'ai commencé comme ça à me dire qu'il y avait vraiment un livre à concocter autour de ça.
Et vous faites rétrospectivement un retour culturel sur l'image de l'alimentation pour la femme, et vous vous dites, au fond, on a toujours eu des banquets d'hommes, mais on ne voit pas de grandes tablées gargantuesques de femmes.
Oui, ça a été mon intuition de départ. Effectivement, je me suis rendu compte que dans les films, les séries, la littérature, les représentations picturales et dans la mythologie, les hommes dévorent, gloutonnent, les femmes ne mangent pas. Et effectivement, là où j'ai eu un témoin qui a repéré la même chose que moi, c'est que je me suis rendu compte que Roland Barthes, dans un commentaire du livre de Bria Savarin, a écrit cette phrase, justement, dans toute l'histoire de la mythologie écrite par les hommes sur l'idéal féminin, les femmes préparent à manger, servent à manger, mais ne mangent jamais, elles n'ont pas d'estomac.
Et encore, on leur laisse servir à manger la cuisine du quotidien. Je vous propose qu'on écoute cette archive canonique. Une archive INA, 1975. Attention les oreilles, il y a un beau décalage d'époque.
Ce que je reproche à la cuisine féminine, aux femmes qui font la cuisine normalement, elles le font tous les jours, mais on ne sait pas de cette cuisine-là dont nous allons parler. C'est cette cuisine tous les jours, c'est la cuisine quotidienne.
Ça, c'est fatigant aussi.
C'est très fatigant aussi, je veux bien croire, mais elles s'y appliquent de moins en moins.
Parce que les femmes ont du talent en cuisine.
Certainement pas. Certainement pas. Voyons enfin, ça se saurait, on les verrait avoir inventé un plat, on verrait un Bocuse femme, on verrait quelque chose comme ça. Ah, oui. Un Bocuse femme. C'est pas mal.
Un Bocuse
femme, quoi.
Articulé, parce que...
Oh,
c'est le féminin, justement, pour
c'est le féminin. Oui, et bien, c'est rien.
Voilà.
Et la meilleure preuve, puisque vous parlez de féminin, et bien, chef n'a pas de féminin, vous allez dire une chefesse.
Chef-taine.
La chef-taine de l'étoile d'or.
Non mais attendez, ce que vous contestez, c'est l'esprit créateur de la femme.
C'est l'esprit créateur de la femme, je vous rappelle. La femme a peut-être trop d'imagination. Lorsqu'elle fait un plat, lorsqu'elle veut faire un grand plat, eh ben, elle ne suit pas la recette classique, alors on ne sait pas du tout ce que ça va donner, vous comprenez? Et ça, c'est terrible en cuisine. Une femme ne réussit jamais deux fois le même plat, ça c'est pas possible. Ou alors lorsqu'elle veut faire un plat, bon, elle met ses petits oignons à mijoter, et puis d'un coup elle se dit, non, est-ce que je vais avoir des bras pour sortir ce soir? Elle file quand dans sa salle à manger, ou dans sa cuisine, elle laisse tout réussir, et puis le morceau de viande est complètement cramé, vous comprenez? Tout ça, elles n'ont pas d'idée de suite pour la grande cuisine.
Non. Oh, Christian Guy, attention collector, nous sommes dans l'émission Encore un jour et ouf, l'année de la femme c'est fini, émission de Bernard Pivot, diffusée le 30 décembre 1975, sur Antenne 2, réaction Lorraine Malka. Là, est-ce qu'on en sort de ça ou est-ce qu'on y est encore? Donc 75, 2025, là on se projetait en 2050.
Alors on dit tout le temps, ça y est, on en sort enfin, etc. En réalité, les femmes chefs, cheftaines comme ils disent, sont toujours très très peu, on en voit encore très très peu, c'est très rare. Alors on dit elles arrivent, mais on dit ça depuis des siècles et en réalité... Voilà, à chaque fois, c'est très éphémère et ça ne dure pas très longtemps.
On le voit, la place des chefs en cuisine, puisqu'on peut le dire comme ça, autrement que cheftaine aujourd'hui.
On le voit, mais c'est encore très, très minoritaire. Moi, personnellement, j'ai envie d'y croire.
Vous dites, j'aime cuisiner, j'aime écrire sur la cuisine. Je pense, avec Marguerite Duras, que cuisiner et écrire forment la même solitude. Tous deux visent à déclencher le désir. Finalement, on n'a pas envie, quelque part, qu'elle se prépare. Quelque chose de créatif, la femme, parce que c'est le lieu du désir, c'est un peu là que vous nous entraînez
dans
votre analyse.
Et juste pour revenir sur l'archive,
il faudrait qu'elle avale qu'une seule chose, si je puis me permettre, c'est le sexe de l'homme, finalement. On a le sentiment que c'est un peu ça.
Vous avez créé un nouveau proverbe, là. Mais ce qui est très flagrant dans l'archive que vous avez diffusée, c'est qu'il y a vraiment ce mythe de la femme idiote, qui n'est étourdie, qui n'est pas capable. Et en fait, tout part de là. Tout part du moment où Aristote a dit très clairement que la femme avait moins accès à la raison que l'homme, et donc était moins capable de développer non seulement son, en fait, son intelligence, son savoir, son palais, son art de cuisiner, son art de manger. Et dans cette archive-là, on voit bien que c'est une idée qui a perduré pendant des siècles et des siècles et qui est encore actuelle aujourd'hui. Et ça empêche en fait, ça maintient les femmes dans un rapport primaire et glouton, en fait, à la nourriture.
Mais
c'est encore
et en
le
plus,
cas.
En secret, parce que en plus, suspect. Pour revenir à la question des troubles alimentaires compulsifs qu'on évoquait au départ avec la suppression de ce mot-clé skinny talk et cette tendance mortifère, même si d'autres contenus survivent, c'était quand même urgent et grave, il fallait se mobiliser. Il y a aussi eu une forme de minceur féministe. Vous en parlez dans votre livre, une minceur militante à l'époque, la fin des années 90, une série comme Ally McBeal, ça représentait quoi ?
Oui, en fait, ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que la minceur élancée androgyne vient d'un mouvement féministe. C'est vraiment le désir des femmes d'aller travailler, de se débarrasser de leurs jupons, de leurs corsets. Et donc, c'est une revendication féministe à avoir, comme dit Georges Vigarello, qui est historien de la silhouette, avoir un corps qui puisse faire concurrence aux hommes dans l'esthétique de la mobilité. Voilà, qui permette d'aller travailler.
Agile.
Un corps agile, exactement. Et en fait, ce mouvement-là a été l'objet d'un backlash, ce que Suzanne Faludi a appelé le backlash, c'est-à-dire on a fait à partir de ça une manne financière gigantesque en développant les régimes alimentaires, en développant le fitness, et on a dit aux femmes, vous voulez être mince, mais vous allez souffrir, mes belles.
On va se quitter sur cet exergue de Naomi Wolf, une essayiste américaine que vous citez. Une culture fixée sur la minceur féminine n'est pas une obsession de la beauté féminine, mais une obsession de l'obéissance féminine. Le régime est l'un des plus puissants sédatifs politiques de l'histoire des femmes. Merci à vous, Lorraine Malka, à lire absolument Mangeuse aux éditions Point. Merci à Gilles Fumé, à lire aussi vos livres Le Petit Déjeuner, Un Repas Inutile aux éditions d'En Bas et Une Histoire de l'Alimentation au PUF avec votre co-auteur Jean-Pierre Villiotte. Et puis merci au chef Mohamed Cheikh. Attention à manger, pour le coup. Chez vous, on va découvrir les franciliens, en tout cas, ou ceux qui font déplacement. Meda, qui est le nom d'une table d'ailleurs qu'on partage en Orient et en Asie, à Saint-Ouen, c'est votre restaurant, et aussi Chic and Chill à Créteil. On conseille votre dernier livre aussi, Ma cuisine anti-gaspi et Petit Prix, c'est publié chez Solar. Et merci à ma grande équipe qui m'a beaucoup aidée cette semaine à travailler sur cette émission. La rédaction en chef, c'est Redouane Tella. La réalisation, c'est Figaro Frélon, Le Floc. La préparation, Marion Philippe. La programmation musicale, Juliette L'Orphelin. Et la technique cette semaine, Frédéric Kiefer.